Bonjour à tous et bienvenue sur la radio Bac FM 106.1. Donc je m'appelle Ciel et je suis un élève de terminale faisant partie de l'atelier Sciences Po. Donc avec moi se trouve Mélissa.
Bonjour à tous, je suis en seconde au lycée et je fais également partie de l'atelier Sciences Po. Donc nous allons interviewer notre invitée Karine Soulé. Vous êtes conseillère d'État, on peut dire comme ça ?
Oui, tout à fait, on peut dire ça. Je suis Karine Soulé, donc conseillère d'État et ayant travaillé beaucoup sur les sujets de fonction publique et aussi issue de l'ENA, maintenant Institut National du Service Public.
Donc notre thématique est-ce que la réussite dépend de facteurs, de normes, de valeurs selon la socialisation et comment réussir en tant que transfuge de classe. Donc nous avons divisé en 5 parties notre interview, donc avec l'identité, la famille, l'entourage, l'école et les médias.
Donc je vais d'abord commencer par une question qui touche la première catégorie sur l'identité. Donc est-ce que vous pourriez décrire votre métier d'une manière un peu plus précise pour que ce soit plus accessible à la compréhension ?
Tout à fait. Donc un conseiller d'État, ça fait deux choses. La première chose, c'est que c'est le juge de plus haut niveau en France qui tranche des contentieux entre une administration, ça peut être une commune ou un ministère, et de l'autre côté, une entreprise ou un citoyen. Et la deuxième fonction d'un conseiller d'État, c'est d'être conseiller juridique du gouvernement sur les projets de loi et les principaux projets de décret.
Et comment pourriez-vous vous décrire en trois mots ?
Alors, en trois mots, je suis courageuse, je suis altruiste et je suis engagée.
Est-ce que vous pensez que ces atouts, au niveau du travail mais aussi au niveau personnel, sont utiles ?
Alors, ils m'ont été utiles tout au long de mon parcours professionnel et tout au long de ma vie personnelle aussi. Le courage, il en faut dans toutes les situations et notamment quand on pilote des projets un peu compliqués. L'altruisme, c'est une valeur clé quand on est engagé dans le service public. Et justement, l'engagement, il en faut pour faire les choses de la meilleure façon qu'on peut, quel que soit ce qu'on fait.
Est-ce que tout au long de votre scolarité, notamment par rapport à votre place en tant que femme dans le service public, vous avez observé une différence de considération ou des inégalités, etc. ?
Peut-être que c'était davantage réel quand j'ai commencé mon parcours professionnel dans l'administration il y a presque 30 ans. En tout cas, c'était peut-être plus difficile de se faire entendre en tant que femme dans des postes de haut niveau dans l'administration, même s'il y en avait. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est beaucoup plus naturel, la présence des femmes dans des réunions de très haut niveau. D'ailleurs, il y a une première ministre qui impose son autorité de façon assez naturelle. Et ça se vérifie également de plus en plus dans l'administration.
Et est-ce qu'aujourd'hui, ces inégalités persistent ou est-ce que vous pensez qu'il y a un changement radical de la considération de la femme, etc. ?
Je pense que le changement, il est bien engagé, mais qu'il est en constante évolution et que, en tout cas, c'est jamais gagné. C'est jamais gagné et donc ça passe par plusieurs choses. Le fait de consolider la place des femmes à des postes de responsabilité. Première chose, c'est que ça apporte beaucoup de variété dans l'appréhension des questions. Et donc, c'est plus performant pour les entreprises ou pour les administrations. La deuxième chose, c'est que ça demande aussi beaucoup d'ouverture d'esprit de la part des hommes, parce qu'il y a des acquis, notamment sur l'équilibre de la vie professionnelle et de la vie personnelle, qui leur bénéficient également. Et la troisième chose, c'est qu'il faut que les femmes jouent aussi leurs cartes en tant que femmes, et donc continuent d'avoir de l'ambition pour accéder à des hautes responsabilités.
Est-ce que des habitudes de votre vie provinciale ont changé durant vos études ?
Alors en fait, moi j'ai une origine provinciale, mais j'ai pas été au lycée en province. Cela dit, pendant les études, j'ai essayé de rester toujours connectée à la fois à la famille, aux amis qui n'étaient pas uniquement parisiens.
Quelles personnes célèbres ou membres de votre entourage ont été vos modèles et pourquoi ?
Ah, est-ce qu'il y a des modèles ? Il y en a toujours. Ils peuvent évoluer tout au long de la vie aussi. On a toujours des nouveaux modèles. Moi, j'ai eu des profs comme modèles, en tout cas, qui m'ont beaucoup soutenue dans le parcours que je voulais faire, puisque il n'y avait pas du tout de fonctionnaires et pas de hauts fonctionnaires dans ma famille. Donc je peux considérer que ce sont des modèles. J'avais des grands politiques, hommes et femmes politiques, que sont notamment Simone Veil, Michel Rocard, Pierre Mendès France, sur la rigueur intellectuelle, l'honnêteté politique et le souhait de changer les choses, le souhait d'essayer de faire évoluer les administrations et de faire avancer le pays. Oui, c'est des modèles.
Donc, vous venez d'évoquer la place de vos proches et de vos parents dans votre vie. Donc, pensez-vous que l'origine sociale de vos parents a joué un rôle dans votre parcours ? Est-ce que ça a influencé certaines choses ou au contraire, est-ce que ça vous a peut-être déstabilisé de changer complètement de milieu, etc. ?
La difficulté, elle vient du fait que c'est difficile de faire des études qui n'ont pas été faites dans le cadre familial, parce que du coup c'est un peu difficile de partager d'éventuelles difficultés ou questions. Et c'est difficile de faire partager aussi l'envie qui n'était pas celle forcément de ma famille, de vouloir m'engager moi dans le service public. Donc il y avait peut-être cette difficulté, mais après, à partir du moment où il y a beaucoup de compréhension à la fois dans la famille et chez les amis, ça n'a pas été un obstacle, mais c'était plutôt une chance, parce que ça me permettait toujours de garder de la distance, et encore aujourd'hui, par rapport au milieu dans lequel j'évolue. Ça me permet toujours d'avoir un petit regard, on va dire, critique, mais critique dans le bon sens du terme. Critique au sens où je peux observer ce qui me convient et ce qui ne me convient pas.
Enfant, qui s'occupait le plus souvent des devoirs avec vous ? Est-ce que vous pensez que le rôle du parent a évolué de nos jours ?
À vrai dire, j'étais assez autonome pour les devoirs quand j'étais à l'école ou au collège ou au lycée, et encore plus pour les études sup. Je ne sais pas trop dans quelle mesure les choses ont évolué. Pour ce qui concerne les amis très proches, j'ai l'impression que les devoirs sont assez équitablement partagés entre les pères et les mères, de ce que je peux voir.
Et donc, par rapport à vos amis, est-ce que vous pouvez les décrire comme un atout et un soutien jusqu'à aujourd'hui ? Et si oui, comment l'expliquer ? Comment justifier le fait de cette présence de vos amis ?
Alors, les amis, déjà, il y a de plus en plus d'amis au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, parce que c'est des amis qu'on se fait au gré des situations professionnelles, mais aussi des affectations. Par exemple, j'ai vécu 5 ans à Bruxelles et voilà. Maintenant, j'ai des amis à Bruxelles, des amis belges et dans les institutions européennes. Les amis, c'est une grande chance au fur et à mesure, parce que justement, ils partagent les interrogations éventuelles, les joies. Ils peuvent donner un avis très éclairé parce qu'ils sont moins impliqués émotionnellement dans une situation. Et surtout, comme j'ai beaucoup d'amis qui connaissent, on fait partie du même milieu professionnel, on s'entraide. Il y a beaucoup d'entraide. Et cette entraide et cette solidarité, elles sont indispensables pour moi pour avancer et s'épanouir professionnellement et personnellement.
Et est-ce que vous aviez plus des amis de genre féminin que masculin ou autant l'un que l'autre ?
C'est très équilibré. Ça a toujours été très équilibré.
Maintenant, on va passer donc à quelque chose de totalement différent mais étroitement lié, donc qui est le parcours scolaire. Est-ce que vous avez un avis sur le système scolaire d'aujourd'hui par rapport à celui d'avant, ou même un avis personnel, ou est-ce que vous auriez des critiques à émettre ?
Alors, ça va être difficile d'y répondre en quelques secondes. J'ai une interrogation, en fait, sur le système scolaire, qui est-ce qu'il permet toujours de faire émerger les talents des élèves, et est-ce qu'il leur donne suffisamment confiance en eux ? C'est-à-dire que c'est pas tellement le système en tant que tel. Le système, c'est les hommes et les femmes qui le composent, en fait, qui sont importants. C'est la communauté éducative. C'est les élèves, la vie scolaire, les profs, les parents. Et donc, est-ce que les relations entre tous ces éléments de la communauté éducative permettent aujourd'hui de donner suffisamment confiance aux élèves pour qu'ils arrivent à réaliser leur leur rêve en quelque sorte. Je sais pas. C'est une interrogation. En tout cas, l'avantage, c'est qu'à voilà, j'ai l'impression qu'à Raoul Folroux, les gens que je rencontre, ils sont assez motivés pour réaliser les projets des uns et des autres.
Et quelles sont les normes éducatives qui vous ont le plus marqué?
Je ne sais pas si c'est une norme éducative, mais ce que je me dis, c'est peut-être dans la façon de travailler. À l'époque où j'ai été au lycée, c'est-à-dire ça commence à remonter un petit peu là maintenant, on travaillait beaucoup de façon individuelle et on n'avait pas beaucoup de projets collectifs. Et j'ai l'impression que ça a changé et ça me semble très important que ça change, en tout cas dans ce sens-là, parce qu'on se rend compte que en réalité c'est très très rare qu'on ait à travailler de façon individuelle sur un sujet et que l'aptitude à obtenir un résultat collectivement, elle me paraît vraiment fondamentale.
Et est-ce que ce manque de travaux de groupe, vous pouvez dire que ça vous a un peu pénalisé?
Alors, je suis pas sûre que ça m'ait pénalisé parce que, en fait, comme on le disait à propos des amis, moi j'ai toujours eu une volonté de travailler en groupe, même informellement, même si c'était pas organisé en tant que tel par l'école. Donc ça, je le développais déjà avec mes amis au moment du lycée. Et ensuite, au moment des études supérieures, on était incités à travailler en groupe. Et donc, pour le coup, ça m'a pas du tout manqué. Au contraire, c'est vraiment un atout qui m'a aidé après pour la vie professionnelle.
Et donc, vous avez dit comme quoi qu'il y avait des enseignants qui étaient assez importants, qui ont joué à votre émancipation. Mais par exemple, est-ce que vous avez des amis qui ont vraiment joué à votre choix de parcours?
Est-ce que j'ai des amis qui m'ont aidé à choisir? Pas nécessairement, je pense. Enfin, les choix, c'est vraiment le produit de rencontres. Ça a été, pour mon cas, beaucoup des rencontres avec les professeurs, mais aussi, effectivement, avec des amis, avec des livres, avec des lectures, avec ça aurait été avec des podcasts, hein, et encore aujourd'hui, il y a des choix, il y a des évolutions qui se font, parce que on va entendre l'interview d'un tel ou un tel à la radio, on va entendre une émission qui va nous passionner sur un sujet, parce qu'on va suivre un sujet sur des réseaux, enfin voilà. Donc, l'émancipation, en quelque sorte, c'est vraiment le produit de beaucoup de facteurs, mais qui sont toujours des influences positives.
Et par rapport à votre choix, justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce choix de filière?
Moi, j'ai fait le choix de m'engager dans le service public parce que j'avais envie d'être utile à mes concitoyens. Je ne fais pas un discours de politique, mais c'était le cas. Et du coup, c'est toujours le cas. Et aussi parce que j'avais des engagements personnels en faveur de la construction européenne, en faveur de la solidarité des plus favorisés vers les plus défavorisés, qui me portait vers le service public, et du coup ça n'a pas changé.
Et si vous aviez à choisir une toute autre filière, laquelle ce serait?
Je ne me suis pas posé la question. Je ne suis pas sûre de choisir autre chose que le service public. Après, j'aurais pu faire d'autres métiers dans le service public. J'aurais pu enseigner, je pense que j'aurais enseigné, en fait.
Et est-ce que, par exemple, un livre, pas forcément une personne qui vous a aidé à votre émancipation, est-ce qu'une lecture que vous aimez beaucoup et qui vous a un peu dirigé dans cette voie?
Par exemple,
une biographie?
J'ai lu pas mal de biographies. Effectivement, j'ai lu la biographie de Mientes France par la couture. Elle a été importante dans mon choix, mais je dirais il y a aussi un livre dont parle de temps en temps un ancien Premier ministre qui s'appelle Édouard Philippe, mais qui, moi, me sert aussi pas mal de boussole, qui est L'étrange défaite de Marc Bloch, et qui explique de façon assez implacable et en même temps toujours d'actualité la façon dont l'appareil de l'État s'est désagrégé au début de la Deuxième Guerre mondiale en 1940, quoi. Et je trouve que c'est toujours une lecture, quand on est fonctionnaire et quand on est haut fonctionnaire, qu'il est sain de reprendre de temps en temps pour savoir pourquoi on s'engage, et voilà.
Est-ce que vous avez un souvenir spécial ou un jeu, par exemple, quand vous étiez enfant, qui pour vous fait partie du processus de socialisation propre à chaque génération durant l'école ?
Alors, quitte à faire sourire, moi je joue au foot avec les amis d'école, en fait, à la récré, au collège et au lycée. Donc ça, c'était un bon élément de socialisation, y compris pour les filles, parce que c'était mixte, en fait, le foot. J'étais pas la seule fille, quoi. Il y avait des garçons et des filles. Donc c'était un très bon élément de socialisation.
Est-ce que vous auriez un conseil à donner, par exemple, aux jeunes voulant poursuivre de longues études, des études dans des écoles prestigieuses qui ne sont pas forcément accessibles? Est-ce que vous auriez quelque chose à leur dire de par votre expérience ou quelque chose comme ça?
Déjà, ce que je voudrais dire, c'est que les écoles, y compris les plus prestigieuses, elles sont accessibles à celles et ceux qui, premièrement, sont vraiment très motivés pour y accéder, ont très envie d'y aller, et donc qui vont se donner les moyens, notamment en termes de travail, pour essayer d'y accéder, parce qu'en tout état de cause, soit ces personnes-là y accèdent, et c'est génial, et si elles n'y accèdent pas, tout le gain qu'elles auront engrangé en travaillant, en essayant, en se posant des challenges toujours plus exigeants, ça servira toujours dans toutes les situations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Donc, pour moi, déjà, le premier conseil, c'est d'être ambitieux pour soi, de ne pas se laisser imposer de limites à sa propre ambition par quiconque que ce soit, de se donner suffisamment de travail pour y arriver, et aussi de rester soi-même. Donc, ça veut dire... de penser aussi à aller au cinéma, écouter de la musique, faire des lectures, enfin de vivre de façon équilibrée, on va dire.
Et donc on va terminer par notre dernière partie, donc les médias. Quels médias conseillez-vous à des jeunes comme nous pour s'informer aujourd'hui?
Alors, je ne sais pas si j'ai une connaissance si grande que ça d'un certain nombre de médias. Je crois qu'il y a Twitch qui est vraiment pas mal du tout. Moi, je suis assez classique. Je ne suis pas forcément la mieux adaptée pour recommander des médias, on va dire, qui ont des formats assez percutants et en même temps qui sont bien, bien documentés. Moi, je reste assez traditionnelle sur des journaux du type Le Monde, Le Figaro, Libération, de façon à avoir une palette d'opinions suffisamment diverses pour se faire sa propre opinion. De la radio, je préfère la radio à la télévision, moi, en fait. Et donc là aussi différentes radios, parce que ça permet d'avoir différents sons de cloche.
Et donc est-ce que vous pensez que à une certaine échelle les médias peuvent donc devenir nocifs si on ne consulte pas par exemple assez de sources ou si on ne met pas ses sources?
L'important c'est la diversité des sources, quel que soit le média ou les médias auxquels on recourt, la presse écrite, audiovisuelle, les réseaux sociaux. Vraiment, ce qui est important, c'est de se nourrir à plusieurs sources, y compris lorsqu'on sait que la source n'appartient pas à un canal de pensée qu'on partage. Parce que justement, pour qu'il y ait du débat, le débat naît de la diversité des points de vue. Et même si on n'est pas d'accord avec la thèse d'en face, si on la connaît pas, eh ben on a du mal à soi-même s'interroger sur ses propres opinions. Donc, pour qu'il y ait du débat en démocratie, il faut qu'il y ait une diversité d'opinions. Et pour qu'il y ait une diversité d'opinions, il faut aussi, et pour se façonner surtout sa propre opinion, il faut vraiment se nourrir à plusieurs sources.
Et donc, vous avez cité quelques périodiques, mais est-ce que vous pourriez citer quelques radios que vous écoutez le plus souvent?
Alors, moi, j'écoute beaucoup les radios du groupe Radio France. C'est-à-dire, il n'y a pas juste une radio du groupe Radio France. Il y a France Inter, France Culture, France Musique, puisque j'adore la musique aussi. Il y a aussi le Move dans le groupe Radio France. Il y a d'autres radios, de temps en temps un peu RTL, de temps en temps un peu Europe 1, parce que là aussi, c'est pas le même son de cloche, et ça permet d'avoir France Info pour avoir juste les petites informations de façon régulière, mais là aussi pas en boucle, parce que le danger de l'information permanente, c'est de ne pas hiérarchiser entre les informations qui sont importantes et celles qui relèvent plus de... je sais pas, du quotidien ou de l'écume. C'est pas que le quotidien n'est pas important, mais voilà, il faut savoir hiérarchiser les informations et pouvoir les traiter soi-même. Et quand il y a trop d'informations, au bout d'un moment, on est un peu noyé.
Merci Karine Soulé d'avoir participé à cette interview sur BAC FM.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.